France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, bloquons tout. Alors que le gouvernement Bayrou sera très certainement tombé depuis deux jours, la grande contestation de mercredi prochain, le 10 septembre, reste cochée dans tous les agendas. Ce mouvement de ras-le-bol généralisé devrait mobiliser 100 000 personnes, ce sont les chiffres des services de renseignement territoriaux. Mettre le pays à l'arrêt, l'idée est née initialement d'une opposition radicale au budget d'économie prévoyé et que prévoit encore François Bayrou. Avant d'agglomérer d'autres revendications, on va en reparler. Alors, que réclame précisément cette grande nébuleuse qui veut tout bloquer? Qui canalise ce mouvement diffus et imprévisible? Jusqu'où peut aller cette forme de radicalité? Quel parallèle, ou plutôt quelle différence, avec les gilets jaunes? Et comment la classe politique et la classe syndicale également regarde-t-elle ce mouvement né initialement de militants associatifs et de l'ultra-gauche? Vous reconnaissez-vous dans ce mouvement? Eh bien, venez nous le dire, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Avec une première question qui vient de Pau. Frédéric est à Pau. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Inter, bonsoir à vos invités. Alors ce 10 septembre sera effectivement un jour de colère, un jour de ras-le-bol, comme vous l'avez dit, et bien légitime. Mais à mon avis, il devrait être, il sera, je pense aussi, un jour festif, un jour qui devra marquer un nouveau départ. On ne peut pas rester uniquement sur la colère. Alors ce sera l'objet de ma question. Pour que ce nouveau départ, pour rompre la spirale, dans laquelle on est, mais il faut certaines conditions. À mon avis, ça ne peut passer que par le départ de Monsieur Macron. Je m'explique. Il a été désavoué en 2022, pas de majorité, aux européennes, désavoué en 2024, désavoué avec Monsieur Barnier, désavoué avec Monsieur Bayrou. 5 désaveux. On comprend bien que s'il reste, il y aura un 6e désaveu. Je vous pose donc la question, ne pensez-vous pas que constitutionnellement et politiquement, ce nouveau départ, souhaité par tous, ne peut avoir lieu avec le départ de M. Macron?
Eh bien, merci de cette question clairement posée, avec ce soir deux invités pour vous répondre. Gwenaëlle Gault, vous êtes la directrice générale de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Vous êtes spécialiste de l'analyse des modes de vie et du changement social et de la consommation également. Vous êtes aussi la co-autrice de Penser sans entrave, ces concepts qui nous empêchent de réfléchir. Votre livre est paru aux éditions de l'Aube, et présent dans ce studio également le politologue Pascal Perrineau, professeur des universités à Sciences Po. Et je rappelle votre dernier livre intitulé « Le goût de la politique » paru chez Odile Jacob. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je voulais pas commencer par la politique, je voulais d'abord définir le concept de ce « bloquons tout », mais on va y aller un peu sur la politique pour répondre à cet auditeur, Frédéric de Pau, qui dit après tout « Macron désavoué », le dernier sondage ne lui sont pas favorables effectivement, désavoué, 6e désaveu peut-être le 10 septembre, mercredi prochain, Pascal Perrineau. Les Insoumis, d'ailleurs, espèrent en cascade le départ de François Bayrou et puis celui du président de la République, la députée Sophia Chikirou. Elle estime même que c'est inéluctable. C'est-à-dire, le départ d'Emmanuel Macron, il l'a dit, ce n'est pas pour maintenant.
Non, si l'on écoute le principal intéressé, à savoir le président de la République ne compte pas du tout démissionner. Et d'ailleurs, notre auditeur parlait de la Constitution. Dans la Constitution, le président est élu pour 5 ans. Il a été élu en 2022, il doit partir en 2027. Et jamais sous la 5e République, quelles que soient les difficultés, un président de la République a choisi de démissionner à la suite d'un mouvement social ou d'une procédure équivalente à celle que nous allons connaître, c'est-à-dire la démission du gouvernement. Le général de Gaulle, certes, était parti en 1969, mais il avait choisi de partir après un référendum dans lequel il avait engagé sa responsabilité. Ça n'est pas du tout le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il faut faire attention, si vous voulez. Là, il s'agit, on va en parler, d'un mouvement social. Ce mouvement social, d'après les renseignements territoriaux, devrait mobiliser aux alentours, dit-on, de 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est beaucoup, mais ce sont des minorités. Hein, et ce n'est pas le pouvoir de la rue qui doit influencer le pouvoir voir des urnes.
Bruno Retailleau, ce soir, parle d'un mouvement qui ne sera pas de grande ampleur, dit-il. Et il a l'oreille des renseignements territoriaux aussi.
Ben, c'est-à-dire que c'est vrai que, contrairement à l'agenda qui était prévu, c'est-à-dire un mouvement du 10 septembre bien visible, bien autonome, ah voilà, maintenant cet événement arrive entre deux événements majeurs, le 8, la mise en cause de la responsabilité du gouvernement Bayrou, et le 18, la grande mobilisation, on verra si elle est grande ou non, la grande mobilisation syndicale. Donc certainement, ces deux événements font un peu d'ombre à la mobilisation du 10 septembre.
Gwenaël Hidalgo, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'analyse des modes de vie et du changement social. Bloquer tout, mais dans quel but ?
Là, je crois que, si vous voulez, on est dans une société qui est une sorte de... Enfin, la société française, c'est devenu une sorte de volcan, quoi. Donc, il y a un magma vraiment social qui bout et des éruptions régulières. Et ça sent le soufre, si vous voulez. Et il y a des éruptions régulières. Et on a vu ces éruptions régulières avec... ça commence pas, d'ailleurs, mais il y a Nuit debout en 2016, les Gilets jaunes ensuite, on va sans doute en reparler. Il y a eu cet espoir aussi, parce que je le mets en positif, parce qu'il y a des moments qui sont plus conflictuels, mais cet espoir du monde d'après lors du Covid, qui était aussi une forme d'éruption d'une certaine manière, les manifestations pour le climat, les retraites, etc. Et là, en fait, on sent qu'il y a une difficulté à trouver des traductions vraiment institutionnelles à ce qui n'est plus une colère seulement, c'est-à-dire c'est vraiment un ressentiment profond, en fait, ça travaille la société. Et là, effectivement, le mot d'ordre change, il est différent de celui des Gilets jaunes qui occupaient, on se souvient, des espaces vraiment
précis. On va en parler des Gilets jaunes dans un instant.
Mais effectivement, il s'agit de bloquer bloquer certainement le gouvernement, bloquer aussi le fonctionnement social. On y reviendra parce qu'il y a des nouveautés en fait dans ce blocage, puisqu'on ne sait pas bien effectivement ce qui va en être exactement le 10 septembre, parce que justement il y a des registres d'expression et de mobilisation qui sont vraiment nouveaux. C'est-à-dire que là il y a des appels à se confiner, à s'auto-confiner, à arrêter de consommer, à arrêter de payer. Donc il n'y a pas forcément que des gens ou les 100 000 personnes dans la rue, mais il va y avoir d'autres modes possiblement de mobilisation.
Eh bien, on va aborder ça dans un instant. On va retourner au standard, c'est le principe de l'émission. Philippe nous appelle de Rochefort. Bonsoir Philippe. Est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes à l'antenne, Philippe de Rochefort. Eh bien non, je vais vous poser une question, Gwenaël Hidalgo et Pascal Perrineau. Cette nébuleuse, Gwenaël Hidalgo, elle est secrète, elle est imprévisible. Dans les méthodes, elle est plus proche des Black Blocs que des Gilets jaunes.
Alors, je sais pas, parce que en réalité, il y a dans cette nébuleuse, il y a plusieurs types de planètes. Et on peut pas la réduire, je pense, à des black blocs. Quand on voit, par exemple, il y a une note très intéressante de l'agence Bloom qui a fait une analyse des réseaux sociaux. Et on voit, par exemple, qu'il y a un des épicentres aujourd'hui de cette mobilisation qui est sur TikTok et qui concentre même 60% de l'activisme. C'est 1,5 million de documents, c'est 60 millions d'engagements. Donc là, on n'est pas sur une minorité Black Bloc. Néanmoins, il y a un potentiel, c'est sûr, et on y reviendra peut-être, mais de violence dans ce qui peut se passer le 10 septembre.
C'est pour ça que j'évoquais plutôt les Black Blocs que les Gilets jaunes. Pascal Perrineau, lors des Gilets jaunes, on avait repéré une possible influence de l'extrême droite. Ici, avec ce mouvement bloquons tout, on est plutôt du côté d'ultra-gauche.
Oui, pour l'instant, on a l'impression, d'après aussi les renseignements territoriaux, que l'ultra-gauche est davantage à la manœuvre que l'ultra-droite. Mais il y a aussi l'organisation en France, depuis maintenant plusieurs mois, d'une extrême droite identitaire qui est très active sur le terrain et pas simplement dans les bastions traditionnels de cette extrême droite identitaire, Lyon ou Nice par exemple. Mais on retrouve une agitation également dans des villes moyennes. Et ce qui me frappe aussi, c'est que dans la préparation de Bloquons Tout, les villes moyennes sont présentes. Vous voyez, il y a des villes comme Alès, des villes qu'on n'a pas l'habitude de voir au premier plan, grandes mobilisations sociales. Alors on parle beaucoup de colère. Cette colère, vous savez, quand vous regardez les enquêtes, elle est partagée, c'est vrai, par tous les Français. Les Français sont très en colère. Mais là où la colère atteint son degré maximal, c'est tout de même d'un côté dans la gauche de la gauche et de l'autre côté dans la droite de la droite. C'est là où les colères sont extrêmement importantes. Mais attention, il faut parler au pluriel. Ce sont des colères. Ces colères sont extrêmement hétéroclites. Et si vous voulez, pour qu'une colère soit véritablement efficace, il faut qu'elle trouve son point de fusion, son point d'organisation central. Et là, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste dans l'hétéroclite, dans la dispersion, un peu comme c'était déjà le cas avec le mouvement des Gilets jaunes.
Si l'on essaye de trouver les points communs à ces colères, on va dire que ce sont des mouvements, on entend anti-gouvernementaux, peut-être, on vient de l'entendre avec notre auditeur, anti-président et même anti-élite.
Oui, anti-élite, défiance vis-à-vis des institutions, défiance aussi, je dirais, et ça se voit à certaines revendications à l'égard de notre modèle de développement, finalement, plus globalement, à l'égard du système économique, à l'égard avec une volonté. Et là, c'est peut-être un point où ça rejoint les Gilets jaunes, de vraiment changer les jeux du règle les règles démocratiques.
Ils veulent des lois, on a entendu, ils veulent des lois directement faite par le peuple, par les citoyens, cette démocratie deviendrait directe, c'est ce qu'ils souhaitent.
Oui, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est pas non plus un hasard, et je pense que Pascal Perrineau me rejoindra là-dessus, parce que, si vous voulez, ce qu'on voit pousser dans l'opinion depuis un moment, c'est justement le sentiment de dépossession du pouvoir et la volonté, au contraire, d'une forme d'horizontalisation, mm-hmm. et face à ça, au contraire, une verticalisation qui se crispe. On voit dans nos enquêtes à l'Obsoco que 75% des Français ne se sentent pas respectés par les politiques en tant que citoyens. Ne se sentent pas non plus représentés dans les mêmes proportions. On voit que pour 7 Français sur 10, la démocratie fonctionne mal, alors que c'était 70%, alors que c'était 50% il y a 10 ans. Donc on a pris 20 points. Donc là, il y a une volonté, en fait, effectivement, de bousculer le système et d'y aller directement. Et par exemple, quand on demande aux Français quel est le meilleur système politique, le système actuel figure toujours en bas de tableau. En revanche, en tête, on voit effectivement tout ce qui est pratique référendaire, pratique participative.
On va retourner au standard dans le Pas-de-Calais. Marc nous appelle. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir et merci d'avoir choisi ma question, qui n'est pas une question, qui est plus une réflexion. Si
allons-y.
Vous bien. Je pense que la France est devenue un petit pays, coincé entre des dictatures comme celle de la Chine ou celle de la Corée du Nord ou de la Russie, et d'autre part un Trump complètement imprévisible. Nous sommes donc dans une situation qui ne nous permet pas d'être en colère, comme on veut bien le dire. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied et que tôt ou tard, d'ailleurs, si les députés ne sont pas en mesure de créer un gouvernement d'union nationale qui permet de tirer vers le haut notre pays, et je parle à ce moment-là non pas des Français, je parle de la France, au sens gaullien du terme. Avançons, mais avançons groupés. Nous n'avons plus les moyens de nos colères.
Merci de ce témoignage. Je vais le soumettre à nos invités. Pascal Perrineau, je rappelle que vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po. Notre pays trop petit, qui n'aurait plus les moyens de faire des colères, il en va d'un gouvernement d'union nationale après, dit notre auditeur.
Alors, ce que vient de dire l'auditeur, on le retrouve dans les enquêtes d'opinion. Une partie de l'opinion est inquiète du déclin à la fois économique, mais aussi politique du pays, c'est-à-dire une démocratie qui n'arrive plus à gérer toutes les demandes, toutes les inquiétudes qui sont adressées au pouvoir ou aux fameux gens d'en haut. Donc il y a bien là, oui, un système qui semble ne plus marcher, ne plus pouvoir répondre aux demandes et qui n'a plus, bien sûr, les capacités à répondre à des demandes qui sont, en plus de ça, extrêmement vastes. Tous azimuts, on en parlait tout à l'heure, demande de démocratie directe, demande d'égalité sociale, demande du changement du système économique. Or, les Français, ils ont bien conscience qu'on n'est pas simplement dans une crise politique, mais dans une crise économique et financière majeure. Donc, pour répondre à ces demandes extrêmement ambitieuses, eh bien, on s'aperçoit que le système, comme on dit, est largement impuissant. Mais ces mouvements, et je terminerai par là, sont tout à fait caractéristiques de ce qui se passe depuis de nombreuses années. Les mouvements sociaux, comme les mouvements politiques, sont de plus en plus des mouvements du grand refus. Ces mouvements savent très bien ce qu'ils refusent. En revanche, ce qu'ils proposent, on le voit bien d'ailleurs dans le flou des mots d'ordre, ce qu'ils proposent est beaucoup plus ambigu. Nous sommes dans une phase de ce qu'un sociologue, Jean-Louis Missika, appelait la politisation négative. Et on y est vraiment.
Et si je peux me permettre, nous y sommes aussi parce que, comme votre auditeur le disait, il disait « avançons ». Mais aujourd'hui, en fait, avançons vers quoi ? C'est la question que se posent les Français aujourd'hui. On est, pour la première fois sans doute dans l'histoire moderne, à un moment où on regarde les générations qui vont venir en se disant en ayant la conviction qu'elles vivront moins bien, en fait. Donc il n'y a pas de projection dans l'avenir. Donc il n'y a pas de... Le contrat social est en panne, on ne sait pas, il n'y a pas de dynamique. Donc la France est un pays qui n'a pas d'avenir au sens où elle ne se dote pas d'avenir. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, d'où le mouvement Bloquons Tout, mais d'où d'autres mouvements auparavant, c'est qu'il n'y a pas de projet politique, il y a une discipline comptable, en fait, qui est proposée. Il y a un effort qui est demandé, mais sans horizon. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas d'horizon. Or, si on veut qu'il y ait des sacrifices, et ça s'est passé des fois dans l'histoire, il faut que ça s'arrime avec des perspectives. Et donc avançons, mais il faut dire vers quoi on avance.
Nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied, ce mouvement est stupide, disait ce soir encore le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Bloquons tout mouvement diffus et imprévisible, on en parle jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, Pascal Le nous appelle du Lot.
Oui,
bonsoir Pascal.
Oui, je voulais dire, mais je comprends pas. On pourrait avancer ensemble, déjà vers un programme un peu plus écologique, vers plein de choses, hein, franchement. Et là, je trouve que je comprends absolument pas pourquoi on veut pas taxer les très riches.
Ah, vaste question, on ne va pas la faire ce soir, mais oui, bien sûr, ça fait partie aussi, bien sûr, des revendications. Pascal Perrineau, le Parti Socialiste a même déposé son contre-plan qui veut taxer la taxe Zucman, qui veut taxer les riches. Ça fait partie, évidemment, de toutes ces revendications qu'on va entendre jusqu'à mercredi et après.
Oui, bien sûr, il y a une revendication qui est toujours très populaire en France et qui consiste à dire, lorsqu'il y a une crise économique et sociale, ben voilà, taxons les riches et les choses iront mieux. Dans le passé, on a vu que des mouvements de forte... Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un des pays dans lequel le taux de fiscalité est déjà le plus élevé. Donc on peut en effet augmenter encore le poids de la fiscalité. Est-ce que cela nous permettra de sortir des difficultés que nous traversons ? Cela n'est pas évident. Et est-ce que taxer les riches, ça suffit à sortir de la crise franco-française ? L'auditrice le disait d'ailleurs elle-même. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors que tout le monde s'y mette dans l'effort, et pas simplement certes dans l'effort fiscal, mais sur la dimension de projet sur laquelle insiste votre auditrice. Moi, j'ai été frappé par la réflexion d'un grand appareil syndical, le premier syndicat français, la CFDT, qui, lorsqu'elle a été confrontée à ce mouvement du 10 septembre, a dit « non ». Nous ne sommes pas d'accord avec le thème « bloquons tout ». Bloquons tout, ça ne peut pas être un projet et ça n'a jamais été le projet d'un grand syndicat responsable.
On va reparler des syndicats. Je voudrais aborder le thème de la radicalité. Gwena Elgo, le ministre de l'Intérieur, encore lui, il est à la manœuvre, évidemment, pour l'instant encore. Il le sera, j'imagine, jusqu'à ce qu'il y ait évidemment un nouveau gouvernement, si le gouvernement Bayrou devait tomber. Il craint des actions contre les infrastructures dites essentielles à la vie de la nation. Qu'est-ce qui serait donc menacé mercredi ?
Alors, je ne sais pas ce qui serait menacé. Je pense qu'il pense effectivement à des
des ports pétroliers, des universités, ça, des centrales nucléaires,
peut-être effectivement, ou des centrales électriques, ou des centres névralgiques en fait du fonctionnement. Quand on entend aussi effectivement certains appeler à ne pas payer avec ses cartes de crédit, retirer son argent, on voit bien les banques aussi qui pourraient être des cibles. Ce qui est Ce qui est intéressant, enfin ce qui est important là, et ce qui peut effectivement se produire, c'est que dans ce magma social là, qui est en fusion, ce côté effectivement d'une verticalité forte ressentie, on pose la question souvent à l'Obsoco et l'on suit son évolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition suivante, c'est-à-dire dans les mois à venir, des actions militantes violentes seront-elles nécessaires pour contraindre les responsables politiques à prendre en compte l'avis de la population? Donc une forme de légitimation en fait de la violence. Ça ne veut pas dire que les gens y participeront, mais est-ce qu'on légitime la violence? Eh bien, on a 50% des Français, un Français sur deux, qui nous dit oui. Et 21%, c'est-à-dire un Français sur cinq, qui nous dit oui, tout à fait. Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a un climat qui est quand même propice effectivement à ce que ces éruptions, encore une fois, puissent être violentes.
Cette forme de radicalité, de vouloir tout bloquer, est-ce que ça pourrait aller, par exemple, jusqu'au sabotage ?
Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a
évidemment,
aussi...
on ne le sait pas, mais je vais dire pourquoi on ne le sait pas. C'est parce qu'il y a eu des assemblées générales dans tous les départements, des assemblées qui sont bien souvent restées secrètes. Pascal Perrineau, qu'est-ce que ce goût du secret dit de ce mouvement ?
Oui, si l'on s'organise de manière secrète, c'est qu'en général, on a quelque chose à cacher. Et parfois, des pratiques qui sont des pratiques certes violentes, mais des pratiques aussi profondément illégales et qui cherchent à nuire plus qu'autre chose. C'est vrai, par exemple, que l'on a vu au cours des derniers mois, même des dernières années, des attaques dont on ne savait pas très bien quelle était l'origine contre notre réseau de transport et contre le réseau ferroviaire. Alors parfois ça s'explique purement par la délinquance, c'est-à-dire que des délinquants vont chercher des matériaux rares, comme du cuivre, etc. Mais il y a certainement des groupes aussi qui tentent de désorganiser le réseau des transports en France. Et on peut imaginer, en effet, qu'il y ait des gens qui rêvent de violence. Pourquoi ? Parce que la violence peut mener au chaos. Et il y a, chez certains acteurs, on le voit, extrémistes, chez certains acteurs politiques, une stratégie du chaos, en espérant que ce qu'on ne peut pas obtenir par les urnes, lors des échéances électorales, eh bien on pourrait éventuellement l'obtenir par la violence. Et là, on redécouvre une vieille culture française, qu'est la culture révolutionnaire, quoi. On n'est vraiment pas un pays...
On renverse la table.
Voilà. On n'est vraiment pas un pays où la culture du compromis est valorisée. Parce qu'on a toujours l'impression que le compromis, c'est la compromission. Regardez ce qui se passe au Parlement. Personne ne veut faire réellement de compromis. Tout le monde rêve d'une union nationale, mais personne ne s'en donne les moyens.
Au nom de la compromission supposée.
Bien sûr. Et donc... quand on ne se retrouve pas dans la logique du compromis, pour certains, on peut être tenté, oui, par des stratégies tout à fait radicales et tout à fait extrémistes. Et à ce moment-là, c'est le pouvoir donné aux minorités actives.
Et c'est vrai que certains Français, on voit bien, disent aussi, regardez les Gilets jaunes, c'est parce qu'il y a eu la violence qu'ils ont pu obtenir des choses.
Est-ce qu'on peut dire ce qu'ont obtenu les Gilets jaunes, justement, précisément ? Ça a ouvert quelle faille, quel projet ?
Il y a quand même, les Gilets jaunes ont quand même permis, enfin ont quand même obtenu d'Emmanuel Macron un déblocage d'aide financière, alors que, et justement c'est ce qu'opposent certains citoyens, il y a eu de grandes manifestations relativement pacifiques sur les retraites qui n'ont, elles, rien obtenu que le 49-3. C'est ce que nous disent aussi les Français. Donc on peut comprendre aussi à certains moments que certains se dirigent vers cette voie. En tout cas, les Français le comprennent. Beaucoup de Français.
Autre chose, on parlait de la culture du secret qui est liée à cette radicalisation. Je voudrais revenir sur ce sentiment un peu anti-élite. Les journalistes, parfois, ont été exclus des assemblées générales au motif que ces journalistes ne disent pas la vérité. Est-ce qu'à l'Obsoco, vous notez cette volonté d'horizontalité, y compris dans l'information, et que ça ne devienne plus par le haut ?
Oui, alors ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur l'information est assez intéressant parce que on est dans un paysage assez complexe. Hein. Il suffit de regarder par exemple ce qui est en train de se passer sur YouTube où il y a une bataille vraiment de l'information entre des médias qui sont plus institutionnels et des médias qui sont beaucoup plus alternatifs, voire complotistes. C'est vrai que pour une partie des Français, les médias peuvent être du côté du système. Là où c'est intéressant, c'est là ce qu'on voit émerger et qui me semble vraiment nouveau, parce que c'est récent, c'est que, par exemple, les intelligences artificielles interviennent comme des juges de paix informationnel aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit, justement, c'est ce que montre l'étude de Bloom, que par exemple Grok sur Twitter, on a recours à Grok pour savoir le statut d'une information, si c'est vrai, si c'est faux, qu'il a et donc tiers de confiance. Donc Grok, ChatGPT, etc. deviennent en fait
des référents.
Et tout l'enjeu de cette bataille aussi, d'une bataille informationnelle, ça va être, et de cette dynamique qui est complètement ouverte, c'est que ça ouvre un nouveau front. C'est-à-dire qu'il va falloir convaincre les IA de l'information, enfin, ça devient très compliqué.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Olivier nous appelle de Tours, jolie ville de Tours. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, et vous avez très bon goût pour les villes, en effet.
Dites-nous.
Donc, voilà, vous analysez le mouvement, son origine, en disant que ça venait de l'ultra-gauche, et plutôt de la gauche. Et en fait, ma réflexion était que, lors de la précédente dissolution, la gauche est arrivée en tête des résultats, mais elle n'a pas eu bénéficié d'une coutume en fait républicaine, qui est que dans ce cas, on nomme en fait le Premier ministre chez le leader du vote, des résultats du vote, et à lui de former son gouvernement. Et ce qui m'étonne, c'est que hier, j'ai entendu sur Arte, dans 28 minutes, le fait que ça ne dérangerait pas les LR que M. Bardella soit nommé Premier ministre, et en référence à, justement, si le Front républicain ne tient pas et qu'il est son parti en tête des votes, dans ce cas, ça serait normal, puisque celui qui est en tête doit normalement devenir Premier ministre et former son gouvernement. Et là, je me suis dit, c'est marrant, ça a sauté une case, en fait. Donc, la gauche, je peux comprendre qu'elle soit, du coup, choquée. De là qu'elle dise ce que vous disiez au départ, on ne se sent pas écouté, le vote ne marche pas, donc le résultat c'est le blocage. De quoi, je n'en sais rien, mais voilà.
Merci beaucoup de ce commentaire qui est un peu aussi une question politique. Donc Pascal Perrineau, effectivement, l'auditeur l'a bien précisé, ce n'est pas une obligation que de nommer un Premier ministre qui vient de la majorité parlementaire, mais c'est plutôt une coutume. Ça a joué beaucoup dans l'opinion lors des votes européens aussi. On a l'impression de voter et puis que finalement, eh bien, ça ne sert à rien.
Oui. En effet, les Français votent, ils ont beaucoup voté, hein, les européennes, les législatives à la suite de la dissolution, bientôt les municipales. Donc les Français vont être là, sont et vont être énormément consultés. Mais le blocage, il n'est pas simplement dû aux attitudes du président de la République dans la nomination du gouvernement. La France est divisée, elle est divisée en trois blocs.
D'ailleurs, quand l'auditeur dit la gauche, il faudrait parler des gauches,
parce que c'est vrai que même après les législatives, au fond, on parle du nouveau Front populaire, mais le nouveau Front populaire a toujours été incapable de former un seul groupe. Il aurait été, de manière claire, la première force s'il avait formé un seul groupe.
Il n'a jamais formé un seul groupe. Le Parti socialiste n'en fait plus partie. Hein.
Il n'a jamais formé un seul groupe. Et donc, le plus gros groupe à l'Assemblée, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Donc, si l'on prenait une logique parlementaire à laquelle votre auditeur fait référence, voilà, dans des démocraties parlementaires, on se tourne vers le groupe parlementaire le plus important, lui disant « essayez de former un gouvernement et on verra si vous y arrivez, ou non. » Mais il ne faut pas surestimer, je crois, la colère politique, strictement politique, dans le mouvement du 10 septembre. Il y a une colère qui est beaucoup plus, je crois, profonde, qui est une colère qui a une dimension sociale, économique, identitaire. C'est tout ça qui est en train d'agiter la société française plus que les désillusions politiques vis-à-vis des décisions du président de la République.
Cette colère, elle sera incarnée le 10 septembre par les contestataires de ce mouvement Bloquons Tout. Gwenaël Gault, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'analyse des modes de vie et du changement social. Je voudrais vous renvoyer à la Fondation Jean Jaurès qui a mené une étude pour savoir quels étaient les profils à l'intérieur de ce mouvement et leur également motivation. Sur les profils, une population plus jeune et plus diplômée que chez les Gilets jaunes, a priori. Ça dit quoi ?
Oui. Alors, cette étude est vraiment très intéressante. Elle analyse une des planètes de la constellation dont on parle. C'est-à-dire, c'est une étude qui a utilisé, en fait, qui a été envoyée sur les réseaux Telegram et Facebook. Mais c'est vrai que chaque plateforme a ses dynamiques. Et il y a d'autres plateformes aussi qui...
Enfin, il était difficile en même temps d'étudier un phénomène au moment où il naît.
C'est très difficile et on pourra sans doute le faire qu'après le 10 septembre, vraiment. Mais cette étude déjà donne effectivement des indications parce que là, on est sur un noyau dur, en fait, d'actifs, actifs et relativement organisés aussi. Donc, ça donne une idée quand même de ce qui peut se passer. Et avec une forme d'homogénéité idéologique, ce qui n'était pas du tout le cas des Gilets jaunes, en fait. Il y a vraiment des différences flagrantes qui est structurée avec une base militante issue de la gauche radicale, vous l'avez dit, qui est très politisée. C'était pas non plus le cas des Gilets jaunes, hein, qui étaient souvent des primo-militants, avec des profils sociodémographiques effectivement plutôt urbains, villes moyennes, comme vous le disiez, Pascal, et plutôt jeunes, plutôt aisés, plutôt diplômés. Donc avec des revendications qui ne venaient pas en fait de la précarité vécue, mais plutôt d'une revendication sur les injustices et les inégalités, voire l'écologie. La seule chose un peu commune, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce désir de changer les règles démocratiques et d'avoir plus d'action directe, où là, on retrouve quelque chose des Gilets jaunes. Mais en effet, là où Antoine Bristiel a étudié et a interrogé ces
qui
gens...
Qui est le chercheur de Fondation Jean Jaurès.
Voilà. Eh bien, il y aurait pu y avoir, justement, sur ces réseaux, une jonction avec d'anciens groupes, toujours d'ailleurs vivants, hein, des Gilets jaunes, et ça n'a pas vraiment été le cas. C'est-à-dire que ça reste, il n'y a pas là de convergence en fait des mouvements.
Et avec aussi une revendication que met en avant la Fondation Jean Jaurès, parmi le nombre de revendications, une arrive aussi en force, c'est la volonté, on en a parlé tout à l'heure, de passer d'une démocratie représentative à une démocratie directe. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui revendiquent ce même changement aujourd'hui ?
Oh, la démocratie directe, vous savez, c'est un vieux rêve qui existe depuis la Révolution française, vieux rêve rousseauiste, qui n'a jamais été atteint, parce qu'on ne peut pas mettre les 60 millions de Français sur une place.
Il faut bien des représentants.
Voilà, il faut
un
bien
moment.
Des représentants. Et forcément, bien sûr, ces représentants, depuis que la représentation existe, eh bien, forcément, ils déçoivent, on considère qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs promesses, etc. Donc, il y a toujours eu un vieux rêve, particulièrement dans l'extrême-gauche, dans l'anarcho-syndicalisme. Un vieux rêve de démocratie directe qui a hanté le monde démocratique. Mais il faut savoir que beaucoup de courants de gauche ne se retrouvent pas dans cette demande de démocratie directe. Ils se contentent de demander ce qu'on appelle une démocratie participative. C'est-à-dire...
Des conventions citoyennes.
Voilà, des conventions citoyennes. D'ailleurs, ce que le président Macron a tenté de mettre en œuvre sur plusieurs sujets, le dernier sujet étant la fin de vie.
Sauf que derrière ces consultations citoyennes, il n'y a pas forcément là encore de retombées très concrètes. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je pense que, en effet, la démocratie directe, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, mais qui prend aujourd'hui, je pense, de l'ampleur et qui devient et qui pousse vraiment dans l'opinion. Alors, directe, participative, en tout cas, cette implication des citoyens, il y a quelque chose qui se passe parce que justement il y a une verticalité qui se raidit en fait. Et c'est aussi ça que ça dit, c'est-à-dire que on l'a vu et les Français ont en mémoire par exemple le TCE contre le traité constitutionnel européen contre lequel ils ont voté qui est revenu par la fenêtre, ils ont en mémoire aussi les retraites, les 23 49-3 en 20 mois de l'année dernière, ils ont en mémoire tout ça et du coup ça fait pousser ces revendications-là.
Sur une demande donc d'horizontalité. Olivier, dernière audition. Vous nous appelez de Rambouillet. Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous. Merci de prendre ma question. Ces échanges sont très intéressants. Je vais essayer d'être synthétique et clair.
Merci.
J'ai entendu plusieurs fois et j'entends à plusieurs reprises que les mouvements en cours seraient des mouvements anti-élite. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là du tout. Je pense que les Français sont parfaitement conscients que pour mener un pays comme la France et pour avoir une stratégie, et il faut absolument qu'on ait des élites. C'est pas le sujet. Le problème, c'est plutôt le comportement des élites. et cette impression que les institutions sont parfois un petit peu instrumentalisées au bénéfice de quelques-uns, plutôt que projeter tout le monde dans un projet d'intérêt général et dans un projet d'avenir et collectif. D'ailleurs, un de vos intervenants disait tout à l'heure qu'on se projetait plus parce qu'on avait l'impression que les générations futures vivraient moins bien que les générations actuelles. Enfin bon, les... Mmh.
Donc,
c'est plutôt un problème de comportement des élites qu'un problème d'élite.
Eh voilà. Bien, je soumets votre remarque et il nous reste moins de 30 secondes, pardon, Gwenaël Hélgo. Le comportement des institutions trop compromise ?
Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, la défiance, c'est quand même une attente en creux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Plus il y a de défiance, c'est parce qu'on attend quelque chose aussi de ces élites, et c'est parce qu'on attend que le système dans lequel on fonctionne, le modèle de développement, se réforme, qu'elle est forte. Donc ça, je pense que c'est important, c'est qu'on tient encore.
Merci beaucoup d'être venu répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Pascal Pirino, je rappelle votre dernier livre, Le goût de la politique chez Odile Jacob. Gwenaël Hélgo de l'Observatoire L'Obsoco, votre dernier livre, Pensée sans entrave aux éditions de l'Aube.